Vous avez une question sur le logement, l'Adil 48 y répond sur 48 FM.
Adil 48,
l'agence départementale d'information sur le logement.
Alors la question, en a-t-il le droit ?
Effectivement, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, nous sommes là, vous pouvez nous contacter par courrier, par mail ou passer à l'agence, c'est encore le mieux.
Ce n'est que le logement, mais tout le logement.
Tout de suite, la minute de l'Adil.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre chronique logement, la minute de l'Adil sur 48 FM, où chaque semaine une juriste de l'agence départementale d'information sur le logement répond à l'une de vos questions sur le thème du logement et de l'habitat. Une chronique à laquelle vous pouvez participer en posant votre question sur contact.adil48@orange.fr, une question auquel on répondra dans cette émission, comme aujourd'hui d'ailleurs, où nous avons un projet d'achat immobilier, un questionnement dessus, et c'était Louise Coste, directrice de la DIL de la Lozère, qui nous répond. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Alors la question, j'ai pour projet d'acheter une maison pour devenir propriétaire et je m'interroge sur les différentes étapes de ce projet ô combien important et ô combien compliqué. Pouvez-vous m'éclairer? On est là pour ça.
Effectivement, on est là pour ça. C'est le projet d'une vie, en tout cas un des grands projets dans une vie, que l'achat d'un bien immobilier, surtout quand c'est son premier achat immobilier, qu'on va devenir propriétaire, qu'on s'endette en général sur quelques années. Donc effectivement, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Entre le moment où je visite le bien, ou même où je surfe un peu sur Internet pour regarder ce qu'il y a à vendre, et le moment où je pends la crémaillère, bah, il va se passer un certain nombre d'étapes qu'on va essayer de présenter ici. Sachant qu'on pourrait faire une émission entière sur chaque étape. Là, c'est vraiment les grandes lignes. Moi, je dirais qu'il y a cinq grandes étapes dans ce projet d'achat immobilier. La première étape, bien sûr, ça va être la recherche du bien immobilier. Alors, comment on fait ? Ben, y a plein de manières pour trouver un bien immobilier. Bien sûr, la consultation d'annonces en ligne. Aujourd'hui, je ne sais pas le chiffre, mais je dirais 98% peut-être des biens immobiliers à vendre sont sur Internet, soit sur le site effectivement d'une agence immobilière ou de plusieurs qui relaient aussi, soit sur des sites grand public. On ne va pas faire de pub, mais on voit très bien le type de site qui diffuse des annonces, notamment immobilières. Le bouche à oreille, il ne faut quand même pas l'exclure. Il faut faire savoir qu'on est en recherche d'un bien immobilier parce que c'est vrai que on a souvent un réseau familial, amical, professionnel. Et puis, de réseau en réseau, des fois, on peut avoir connaissance de biens immobiliers à vendre avant qu'ils soient mis effectivement sur le marché. Et donc, ça peut aussi permettre de découvrir des biens. Et puis, il ne faut pas hésiter également à en parler. Moi, j'invite souvent à en parler à la mairie, notamment dans les petits villages. Parce que là aussi, les maires, ils peuvent avoir une bonne connaissance, avoir vu des propriétaires, ils disent « Ouh, cette maison, je ne sais pas quoi en faire, je vais sûrement la vendre ». Bon, ils peuvent permettre effectivement des mises en relation. Voilà, une fois qu'on a repéré le ou les biens, on va faire une visite. C'est vraiment important de faire la visite. Alors, visiter un bien immobilier, ça prend. Je ne sais pas si ça s'apprend, mais en tout cas... c'est pas comme quand on fait une visite, quand on va chez des amis, on vous fait visiter la maison. Non, là, on est dans une autre optique quand même. Donc, il faut essayer d'avoir une visite un peu organisée, d'avoir préparé sa visite, de savoir un petit peu les questions qu'on va poser, d'être vigilant sur la qualité des matériaux, le fait de savoir s'il y a eu des travaux réalisés, etc. Il existe des guides un peu de visite d'une maison ou d'un appartement. N'hésitez pas à nous consulter à la DIL, on pourra vous donner ce type de guide qui peuvent vous aider un petit peu dans la visite. Il y a des questions essentielles comme demander la superficie du bien pour éventuellement calculer le prix au mètre carré. On peut demander à consulter tous les diagnostics immobiliers s'ils sont déjà disponibles, en tout cas de savoir s'il y a de l'amiante, du plomb, quel est le niveau de performance énergétique. Si on est sur un appartement, connaître les charges de copropriété, c'est vraiment important, parce qu'il va falloir les intégrer dans le budget. Connaître le montant des impôts locaux, aller à la mairie pour savoir si dans le quartier il y a des projets, etc. Voilà. Ça, c'était vraiment la première étape. Je cherche un bien, je visite. La deuxième étape, si effectivement le bien nous plaît, c'est de rédiger une offre d'achat. Alors, c'est pas obligatoire, hein, l'offre d'achat, mais c'est quand même conseillé et de plus en plus pratiqué. Donc, c'est une offre qui va se faire en général par écrit, dans laquelle on va préciser le prix d'acquisition du bien, qui peut être soit le prix demandé par le vendeur, soit un prix inférieur. Ça pourrait être un prix supérieur, mais c'est rarement le cas. Hein. Et puis, on va préciser, bien sûr, le délai de validité de cette offre, en général, 1 à 2 semaines. Dans ce délai-là, le vendeur, bah, il va faire savoir s'il est d'accord avec cette proposition ou éventuellement faire une contre-proposition si on avait été un petit peu trop gourmand sur la réduction. Ensuite, il y aura une troisième étape qui va être importante, ça va être la signature d'une promesse de vente ou d'un compromis de vente, une promesse synalagmatique de vente, où là, ça va être vraiment un engagement réciproque des deux parties, du vendeur à vendre, de l'acheteur à acheter, au prix et conditions qui ont été négociées. Ça peut être quelque chose qui va être écrit et directement entre les parties, on le déconseille, soit qui va être rédigé avec l'intermédiaire d'un agent immobilier ou d'un notaire. C'est quand même conseillé pour la sécurité juridique de l'acte, puisque on dit qu'un compromis de vente vaut vente, c'est-à-dire qu'il comprend déjà toutes les conditions essentielles de la vente. Donc, bah, il ne faut pas se louper, quoi.
Et oui, oui. C'est important.
Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce compromis ? Bah, des informations concernant les parties, hein, les coordonnées du vendeur, de l'acheteur. On va retrouver des informations concernant le bien en lui-même, donc bien sûr son adresse, son origine, un descriptif plus ou moins détaillé, savoir s'il y a une hypothèque, une servitude, etc. Et puis des informations concernant la transaction, ben, donc le prix de vente bien sûr, les modalités de la vente, est-ce qu'il y aura un prêt ou pas, la durée de validité de ce compromis, et donc dans quel délai il faudra signer l'acte authentique, des informations relatives aux conditions d'exercice du droit de rétractation, pardon, puisqu'il faut savoir qu'effectivement on va bénéficier d'un délai de rétractation de 10 jours après la signature, éventuellement des clauses suspensives, je vais y revenir, la date de disponibilité du bien, etc. etc. Je reviens un instant sur ces conditions suspensives. Dans tous les compromis, on va retrouver la condition suspensive d'obtention d'un prêt, sauf si on indique de manière manuscrite qu'on ne va pas avoir recours à un prêt, dans ce cas, ça va être noté. Sinon, effectivement, il y aura toujours cette condition suspensive, ce qui fait que si on a un refus de prêt, eh bien, le compromis sera censé n'avoir jamais existé.
Voilà, parce qu'on n'en a pas spécialement parlé dans les étapes, mais il y a toute l'étape prêt immobilier, toutes les démarches qu'il faut faire pour aller voir les différentes banques.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que là, c'est toutes les démarches un peu connexes hein, à l'achat. Effectivement, il va falloir trouver son financement. Alors là aussi, c'est est-ce que je commence par aller voir ma banque pour avoir une idée du budget ou est-ce que j'y vais qu'après la signature du compromis, puisque c'est qu'à ce moment-là que la banque pourra vraiment établir une offre de prêt, un contrat de prêt. Nous, on conseille de faire les deux, hein. D'aller au départ pour avoir une idée de son budget global.
Oui, oui, c'est important.
Ça sert à rien de visiter des biens à 300 000 euros si son budget, c'est 200. Et puis après, d'affiner et de faire jouer la concurrence au moment de la signature du compromis, où là, vraiment, dire bah, pour financer ce projet, qu'est-ce que vous me proposez, quoi. Voilà, on peut indiquer dans l'acte d'autres conditions suspensives, notamment des conditions suspensives d'autorisation d'urbanisme, hein, si on envisage de faire des travaux qui nécessitent un permis ou une déclaration préalable, ben on peut indiquer ce projet-là et attendre d'avoir cette autorisation avant de réitérer l'acte au moment de l'acte authentique. Voilà, il faut savoir que c'est vraiment important ces conditions suspensives parce qu'une fois que le délai de rétractation sera passé, si je veux sortir de ce compromis, alors que les conditions suspensives se sont réalisées, je risque en général d'avoir à verser une indemnité. Alors, ça va dépendre hein, de ce que prévoit le compromis, de ce que prévoit de la qualification de la somme qu'on aura versée au moment du compromis. Ce sont des arts, un acompte, etc. Mais il est fréquent qu'on verse 10% du prix de vente au moment du compromis et qu'on perde cette somme si on se rétracte après le délai de rétractation légal et alors que les conditions suspensives sont réalisées. Voilà.
Ouais, 10%, c'est pas rien sur l'achat d'une maison.
Effectivement, prix, c'est ça important. Qui sera perdu pour un autre achat immobilier, quoi. La quatrième étape, c'est la signature de l'acte de vente. Alors, il n'y a pas de... Oh, je vous avais parlé de 5 étapes, mais bon, la dernière sera très rapide. La 4e étape, elle est rapide. C'est la signature de l'acte de vente. Il faut savoir qu'il n'y a pas de délai entre la signature du compromis et la signature de l'acte de vente. En tout cas, il n'y a pas de délai légal. En général, le délai qu'on constate, c'est 2 à 3 mois, puisque c'est le temps qu'il faut, effectivement, ben, pour l'acquéreur, pour avoir son prêt, faire toutes les démarches. Pour le vendeur, de s'organiser, à déménager le cas échéant. Et puis pour le notaire, à rédiger l'acte, à purger les différentes démarches qu'il a à réaliser, etc. L'acte de vente, c'est toujours un acte authentique, établi par le notaire. Soit les parties se mettent d'accord pour prendre un seul et même notaire, soit chacune des parties peut choisir d'avoir son notaire. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires. Les notaires, dans ce cas, se partageront leur rémunération. Et puis donc c'est le moment où voilà, on verse le prix d'achat et on a les clés et le notaire va délivrer à l'acquéreur une attestation de propriété, donc il va lui permettre de faire toutes les démarches administratives. Il est, ça y est, pleinement propriétaire. Le notaire, après ça, il a encore un certain nombre de formalités à accomplir, notamment l'enregistrement de l'acte de vente au service de publicité foncière, qui est vraiment une démarche importante qui rend opposable, hein, effectivement, la qualité de propriétaire au tiers. Et c'est qu'une fois que cette démarche est vraiment achevée, que le notaire va recevoir la copie de l'acte authentique qui va être cachetée de l'administration fiscale et qui va pouvoir... donner une copie aux parties, et cet acte, il est conservé pendant 100 ans par l'office notarial. C'est effectivement souvent long. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « Ah, ben, j'ai signé il y a 6 à 8 mois, j'ai toujours pas eu mon acte, etc. » Effectivement, c'est long, il y a des gros retards, des gros embouteillages, on va dire, de ce service de publicité foncière.
C'est différent aussi suivant les notaires, j'imagine. Ça peut aller plus ou moins vite suivant le notaire.
Mais pas tellement, c'est pas non, le notaire pas en lui-même, c'est vraiment un service spécial de l'administration fiscale.
D'accord.
Et qui ont fortement réduit leurs effectifs. Et donc, voilà, je sais que c'est compliqué.
Oui, oui. Mais il y en a qui arrivent de Bercy à Mende là prochainement. Donc,
c'est
voilà,
vrai, j'ai entendu ça.
Ça ira peut-être plus vite.
Peut-être. Voilà, la dernière étape, c'est effectivement le déménagement et la pendaison de crémaillère, mais on pourra reparler du déménagement une autre fois, parce qu'effectivement, c'est aussi une grande étape, notamment quand on fait appel à un déménageur professionnel. Il y a quelques précautions à prendre, on en reparlera.
Oui, c'est intéressant. On ne l'a jamais évoqué, mais c'est
tout
intéressant.
À fait.
Merci, vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la DIL de la Lozère, rubrique questions-réponses et en podcast sur nos deux sites internet. Si vous souhaitez poser une question afin qu'une juriste de la DIL y réponde dans cette émission, vous pouvez appeler au 04 66 49 36 65. Par mail à contact.adil48@orange.fr ou en venant vous voir après avoir pris rendez-vous, bien sûr, au 12 bis avenue Foch tous les jours sauf le vendredi après-midi ou dans l'une de vos permanences tenues les mercredis à Langogne, Marvejols, Florac et Saint-Chély. Merci Héloïse.
À bientôt.